VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 20 décembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Guinée, le projet de nouvelle constitution a été rendu public hier soir à Conakry.
Le président français Emmanuel Macron est attendu pour une visite de 48 heures aujourd'hui en Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire, où le PDCI, principal parti d'opposition, a annoncé qu'il désignera son candidat à la présidentielle de 2020 lors d'une convention du 12 au 14 juin à Abidjan.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé hier un prolongement d'un an de sa mission de maintien de la paix en République démocratique du Congo.
Ici aux États-Unis, des accords profonds entre parlementaires démocrates et républicains sur les modalités du procès en destitution du président Donald Trump prévu au Sénat.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Guinée, le projet de nouvelle constitution a enfin été rendu public jeudi soir à Conakry. Dans une adresse à son peuple, le président Alpha Condé a indiqué à la télévision publique que le projet fera l'objet d'une large vulgarisation avant son adoption. Que signifie cette sortie du président guinéen ? Élément de réponse avec Zakaria Camara, notre correspondant à Conakry.
L'une des nouveautés de ce projet concerne la durée du mandat. Selon l'article 40, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans, renouvelable une fois. Le président Condé n'a fait que quelques minutes à la RTG, la télévision publique guinéenne, pour expliquer sa démarche. Il dit avoir saisi la Cour constitutionnelle d'une demande d'avis de conformité après avoir reçu l'avis favorable du président de l'Assemblée nationale. Alpha Condé a dit avoir instruit le ministre de la Justice, garde des Sceaux et tous les autres départements ministériels concernés d'organiser des explications approfondies sur les principales articulations du projet de nouvelle constitution. En conclusion, le président Condé a invité ses compatriotes à placer au-dessus de toute autre préoccupation et considération les intérêts supérieurs du peuple et de la sauvegarde de la nation. Depuis plusieurs semaines, le Front National pour la Défense de la Constitution organise des manifestations en Guinée. Au moins 20 personnes ont été tuées par balle, selon les opposants à la nouvelle Constitution. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Au Niger, le président Mahamadou Issoufou a défendu l'opération française Barkhane, opération de lutte contre le djihadisme au Sahel dans son pays. Il a exprimé son soutien quelques jours après l'attaque du camp militaire d'Inates qui a fait 71 morts et au moment où le sentiment anti-français grandit au Sahel. On a besoin de plus de Barkhane, de plus d'alliés. Ceux qui critiquent la présence française ou des alliés dans le Sahel oublient que sans l'intervention Serval en 2013, le Mali serait sous contrôle des terroristes, peut-être le Niger aussi, a dit Mahamadou Issoufou dans un entretien à RFI et à France 24. Il doit accueillir dimanche le président français Emmanuel Macron à Niamey pour rendre hommage aux soldats tués à Inates.
Et M. Macron est attendu ce vendredi en fin de journée en Côte d'Ivoire pour une visite de 48 heures et fêter Noël avec les soldats déployés à l'étranger. Il se rendra au camp militaire français de Port-Boué dès qu'il sortira de l'avion d'Abidjan, tout proche, comme il a fait au Niger en 2017 et au Tchad en 2018. Le président Macron devrait à nouveau appeler les Français à penser à leurs soldats qui ont choisi de s'engager face à la menace qui est permanente, selon les mots qu'il avait prononcés sur la base de N'Djamena.
Pendant ce temps, toujours en Côte d'Ivoire, le PDCI, principale formation d'opposition, désignera son candidat à la présidentielle de 2020 lors d'une convention du 12 au 14 juin à Abidjan. Cette date a été annoncée hier par son bureau politique qui s'est réuni au siège du parti sous la direction de l'ex-président Henri Konan Bédié, chef du parti. Monsieur Bédier, 85 ans, qui dirigea la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999, laisse planer le mystère sur son éventuelle candidature, à l'instar de l'actuel président Alassane Ouattara, 77 ans, au pouvoir depuis 2011, et de l'ex-président Laurent Gbagbo, au pouvoir de 2000 à 2010, et qui est âgé de 74 ans.
Au Libéria, un des plus ardents détracteurs du président George Weah, le très populaire animateur de radio Henry Costa, a été accueilli hier par des centaines de partisans à son retour au pays, et ce dans le cadre d'une manifestation de l'opposition pour réclamer le départ du pouvoir de l'ex-footballeur George Weah. Les précisions d'Irénée Herman Umbo.
Henry Costa, farouche critique de George Weah, a atterri en provenance des États-Unis, où il étudie et anime un show très écouté au Libéria, le Costa Show. Vêtu d'une chemise blanche, le poing serré, il a parcouru des kilomètres debout dans une voiture au toit ouvert, encadré par de jeunes partisans à moto. Il a appelé de nouveau à manifester le 30 décembre pour réclamer le départ de George Weah, élu sur la promesse d'améliorer les conditions de vie des Libériens et de combattre une corruption chronique. Le ministère de la Justice a refusé le mois dernier d'autoriser cette manifestation qualifiée d'inconstitutionnelle, mais les opposants maintiennent leur mot d'ordre, faisant craindre des violences. « Je suis ici pour participer à la manifestation qui doit avoir lieu. » Qu'y a-t-il de mal à dire que le président doit démissionner, a-t-il déclaré, rappelant que la liberté de parole et de s'assembler existe au Libéria. Appeler à l'éviction du président constitue indéniablement un crime de trahison, de terrorisme et de subversion, a répliqué Bofal Chambers, président de la Chambre des représentants.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé hier un prolongement d'un an de la MONUSCO, sa mission de paix en République démocratique du Congo, avec quelques ajustements, Eddie Sango.
Introduite par la France, la résolution a été adoptée à l'unanimité des 15 membres du Conseil. Le Conseil de sécurité a décidé d'abaisser les nombres des casques bleus à 14 660. 15 900 soldats de l'ONU sont actuellement déployés. La composante police gagnera temporairement, de son côté, 360 personnes de plus. Les conseils de sécurité invitent les secrétariats de l'ONU à étudier une future réduction du nombre des casques bleus déployés en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, notamment dans les régions où la menace posée par des groupes armés n'est plus significative. Il prend note de l'étude réalisée récemment et prévoyant un minimum absolu de 3 ans pour un futur retrait de la MONUSCO. L'ONU est présente militairement en République démocratique du Congo depuis une vingtaine d'années et son budget actuel avoisine les milliards de dollars.
L'ancien haut fonctionnaire rwandais Fabien Eretse a été reconnu coupable d'avoir participé au génocide des Tutsis dans son pays en 1994 et condamné pour crime de génocide jeudi soir par la cour d'assises de Bruxelles, une première en Belgique. Fabien Eretse, hutu de 71 ans, qui clamait son innocence, est resté impassible à l'énoncé du verdict. Il encourt la réclusion à perpétuité. Sa peine fera l'objet d'une seconde décision du jury, vraisemblablement cet après-midi. Eretse a été aussi reconnu coupable de crimes de guerre contre des victimes identifiées, à savoir 9 meurtres commis à Kigali le 9 avril 1994 et 2 autres quelques semaines plus tard dans des zones rurales.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le chef de file des Républicains au Sénat, ici à Washington, Mitch McConnell, a fermement réprouvé hier la mise en accusation du président Donald Trump par les démocrates majoritaires à la Chambre des représentants. Monsieur Trump doit être jugé à la Chambre haute que contrôlent les Républicains. Selon Monsieur McConnell, il revient maintenant aux sénateurs de rectifier le tir. Le point avec Idriss Fall.
Mitch McConnell a estimé devant le Sénat hier que les démocrates de la Chambre des représentants ont conduit l'enquête parlementaire la plus précipitée, la moins complète et la plus injuste de l'histoire moderne des États-Unis, ajoutant qu'une faction politique à la Chambre a succombé à la haine partisane. le chef de la minorité démocrate de la Chambre haute, Chuck Schumer, a aussitôt dit que McConnell prépare le procès le plus précipité, le moins complet et le plus injuste de l'histoire moderne des États-Unis. Le président Donald Trump est envoyé en procès au Sénat pour abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès dans l'affaire ukrainienne. Les élus républicains occupent 53 sur les 100 sièges au Sénat.
Et toujours ici aux États-Unis, les candidats invités au 6e débat des primaires démocrates ont affiché hier soir un front commun contre le président Trump, mais ils se sont vivement affrontés sur la question de l'argent dans la politique lors d'échanges qui ont permis à certains frondeurs de briller. La soirée a aussi été marquée par de vifs échanges, principalement dirigés contre Pete Buttigieg. Quatrième de la course, il reste une menace pour ses adversaires, car il est en tête dans les sondages de l'Iowa. Cet état-clé ouvrira le 3 février la saison de ses primaires et donnera le ton pour la suite. Dans un communiqué, le président Trump a moqué un débat morne et pessimiste, ayant montré, selon lui, qu'aucun de ses personnages n'a une chance de le battre. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Irénée Herman Ungo.
Après 55 années passées dans l'actionnariat de la banque ougandaise DFCU, le Britannique CDC Group cède la totalité de ses parts. En Côte d'Ivoire, les États-Unis accordent 1,2 million de dollars à l'entreprise locale Business Management Invest pour le financement du projet pilote de numérisation du système de collecte des impôts. Ce nouveau système permettra non seulement de réduire les risques de fraude liés à la collecte ordinaire, mais surtout d'accroître les revenus de l'État pour accompagner les services publics essentiels, notamment les écoles, les infrastructures et la gestion des déchets. Kenya Airways achève l'année 2019 avec des résultats financiers en dessous de ceux de 2018 selon le conseil d'administration du transporteur national kenyan. Il indique que les résultats sont inférieurs d'au moins 25% à ceux publiés pour la même période en 2018. En Afrique du Sud, Business Partner Limited a conclu avec la Société financière internationale un accord de prêt d'un montant de 42 millions de dollars. L'institution présente dans sept pays africains veut renforcer ses finances. Financement généralement compris entre 500 000 et 50 millions de rand à l'endroit des entreprises dirigées par des femmes.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
2 ans de plus pour Issoufou Dayo à Berkane.
Oui, le défenseur burkinabé a paraffé une prolongation de contrat jusqu'en 2021 avec la formation marocaine. Depuis 3 ans à la Renaissance sportive de Berkane, Issoufou Dayo a fait partie de l'équipe qui a disputé la finale de la Coupe de la Confédération contre le Zamalek cette année. Par contre, en Europe, selon des télégraphes, le Sénégalais Badou Ndiaye pourrait quitter Stoke City cet hiver.
Pyramide FC se sépare de son entraîneur.
Oui, le club égyptien s'est séparé de son entraîneur Sébastien Desabre à la suite de mauvais résultats dans le championnat. Pyramide reste sur 3 matchs sans victoire et après un nul 2-2 devant Aswan, le club a enchaîné 2 défaites 0-2, 2-3 contre le Zamalek et El Gouna. Desabre n'y a pas survécu, arrivé au club il y a 5 mois. Le technicien français affiche néanmoins un bon bilan en Coupe de la Confédération de la CAF. 2 victoires en 2 matchs pour les débuts du club. Au total, Desabre à Pyramide, c'est 18 matchs, 12 victoires, 2 défaites et 4 matchs nuls.
Un accord pour acheter le club de Rapinoe.
OL Group, la holding qui coiffe l'Olympique Lyonnais, a annoncé être parvenu à un accord pour acheter le Reign FC, club américain où joue la superstar du football féminin Megan Rapinoe. L'entreprise de Jean-Michel Aulas va reprendre les actifs de ce club basé à Tacoma. Le montant de l'opération est évalué à 3,5 millions de dollars. Le Reign FC évolue depuis les origines en première division américaine, la National Women Soccer League. 2 de ses joueuses, la Ballon d'Or 2019 Megan Rapinoe et la milieu de terrain galloise Jessica Fishlock, ont évolué dans le passé avec l'Olympique Lyonnais.
L'agence antidopage russe conteste la mise au ban de la Russie.
Oui, la RUSADA a émis une recommandation de contester les sanctions prises à l'encontre de la Russie. mise au ban de la communauté sportive internationale pendant 4 ans en raison des falsifications de données antidopage. L'agence antidopage russe va saisir le tribunal arbitral du sport de la question. La Russie, on le rappelle, a été privée par l'agence mondiale antidopage de participation pour 4 ans aux principaux événements internationaux, dont les Jeux olympiques 2020 et 2022 et la Coupe du monde de foot 2022. Elle est accusée d'avoir manipulé les données antidopage qu'elle a transmises à l'organisation. Cette mise au ban de la Russie prévoit que ses sportifs pourront participer aux compétitions, mais sous drapeau neutre et sans que l'hymne national ne soit joué. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Houston et les Clippers, 122 à 117, Milwaukee et LA Lakers, 111 à 104, Utah et Atlanta, 111 à 106, San Antonio et Brooklyn, 118 à 105.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Face à la recrudescence des attaques terroristes dans le Sahel, un sommet extraordinaire a réuni dimanche dernier à Niamey au Niger. Les chefs d'État des pays concernés, le président nigérien et ses homologues du G5 Sahel ont réitéré leur volonté d'améliorer la coordination entre la force conjointe, les forces de défense et de sécurité nationale et les forces internationales alliées. Au Mali et au micro de Kassim Traoré, certains habitants de Bamako, la capitale, donnent ici leurs impressions sur la force conjointe du G5 Sahel.
G5 Sahel, je pense que ça peut faire beaucoup de choses si eux-mêmes acceptent d'aller ensemble les pays, les 5 pays. Mais il ne faut pas compter sur les efforts des autres continents pour nous aider. Je pense que le Mali peut financer, quand on divise les pourcentages, chaque pays peut financer leur armée.
Je ne vois aucun effort de G5 Sahel. Tout ce que je constate, nos soldats sont sur la longueur des journées.
Le G5 Sahel ne fonctionnera pas. Et nous sommes très heureux de constater que les Américains ont tout le temps indiqué que c'était une force de trop. Que c'était une force dont la vision n'est pas claire, dont la mise en place n'est pas claire. Et au regard du fait que les armées de la sous-région, les armées des pays qui constituent le G5 Sahel, n'ont pas encore atteint le niveau où ils peuvent coopérer comme l'OTAN, comme d'autres armées.
Dans la suite de cette initiative-là, qu'on tienne compte des acteurs nationaux, des acteurs signataires et des différentes forces vives de la nation, parce que le G5 Sahel ne peut pas être un embryon qui évolue tout seul, et qui ignore les réalités des autres actions posées, notamment c'est inscrit dans l'accord pour la paix et la réconciliation, et aussi qui ne peut pas ignorer la présence des autres forces en présence sur le terrain.
Mais les résultats tardent à venir. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas compter sur d'autres pays pour nous financer. Les peu de matériel que nous avons, il faut que ces chefs d'État comprennent qu'on doit faire la mutualisation et gérer la chose, surtout avoir des banques de données concernant ce qu'on appelle la communication, et que les informations circulent et que les moyens aériens que nous avons et les moyens matériels que nous avons qu'on mutualise une fois qu'il y a des attaques sur le Mali et que le Niger ou d'autres pays se préparent en conséquence. Si on arrive à faire la jonction, nous arrivons à éliminer tous les terroristes, nous arrivons à éliminer tous ceux qui sont contre les antinationales et ces apatrides et nous irons le pays avec responsabilité.
On ne négocie pas sa souveraineté, notamment la souveraineté militaire. Moi, je conseillerais plutôt à nos 5 chefs d'État de faire des efforts communs. Le Mali, le Niger, le Burkina ont les mêmes réalités. Ces pays gagneraient à avoir des approches tripartites qui permettent de faire des patrouilles communes à leurs frontières, de permettre pourquoi pas des poursuites respectives dans leurs frontières, comme ce que le Mali a fait avec la Mauritanie en 2011, quand la Mauritanie rentrait dans notre guerre que nous faisions de même. Il ne faut pas tout miser dans le même panier et de voir que nos chefs d'État sont en train de faire une erreur monumentale de compter sur l'Europe ou bien sur la France pour assurer la sécurité de Sahel.
C'était des réactions recueillies à Bamako par Kassim Traoré.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
En République démocratique du Congo, les autorités ont annoncé avoir prévu un budget de 6 millions de dollars pour fêter l'an 1 de l'arrivée au pouvoir de l'ancien opposant Félix Tshisekedi. Outre cette annonce qui a aussitôt suscité les critiques de l'opposition, un billet de banque dit « collector » aux effigies de l'ex-président Joseph Kabila et de son successeur Félix Tshisekedi a été également proposé. Un dossier sur le tollé suscité sur la toile et au sein de la classe politique avec Eddy Issango.
Le billet sera imprimé par la Banque centrale congolaise et aura tout d'une monnaie, sauf une valeur marchande, ont expliqué les autorités congolaises. Fait à titre symbolique pour l'an 1 de la première alternance pacifique du pays, il pourra tout de même rapporter de l'argent car il sera vendu, selon les ministres près le président de la République, André Kabanda Kana. Des explications qui n'enchantent pas certains dans la classe politique et dans la société civile, surtout ceux qui estiment avoir souffert dans leur chair, comme beaucoup de ceux qui y ont laissé leur vie. Parmi eux, celui qui a passé quelques années en prison après avoir réclamé des élections, Franck Diongo.
Si le billet de 10 000 francs, c'est un billet qui n'aura pas de transaction, si c'est vrai, on ne peut pas mettre les effigies de l'ancien président et le nouveau président. Soit qu'on mette les effigies ou les figures de ceux qui se sont sacrifiés pour la démocratie pour qu'on obtienne l'alternance, où on met les fichiers de l'héros national Étienne Tshisekedi. Mais les Congolais n'accepteront pas qu'on mette les effigies dans une pièce de monnaie de ceux qui sont en vie. Même pour symboliser l'alternance, ce n'est pas ça le symbole de l'alternance. Il y a des gens qui se sont battus pour obtenir cette alternance. Les Congolais digèrent mal cette effigie-là. Qu'il y ait transaction ou pas, ce n'est pas acceptable.
Le coût des festivités est aussi un autre point qui fâche. Le gouvernement a annoncé 6 millions de dollars américains. Les mouvements citoyens crient au gaspillage, suivant un des coordonnateurs de Filimbi, Carbone Beni.
Il n'y avait pas une bonne volonté de laisser. Sinon, on aurait dit organiser ces élections depuis 2016 comme c'était prévu. Donc pour nous, il faut bien commémorer la date. Mais pourquoi dépenser 6 millions de dollars tandis que nous avons rougeole et l'Union européenne nous aide avec 2 millions de dollars pour la rougeole? Tantôt, il y a une semaine, l'Union européenne a financé, a aidé avec 1 million de dollars pour les inondations. L'État congolais ne s'occupe pas de nos frères et sœurs des Sud ou Bangui qui sont inondés. Ils ont besoin d'argent. Combien ils ont déjà donné, affecté pour ces besoins sociaux? Donc, gaspiller 6 millions de dollars et aller en France, M. Macron vous donne 15 millions pour soutenir la gratuité qui est important pour notre société. C'est une aberration. Dépenser 6 millions en un seul jour, c'est totalement une aberration.
Une commission a été chargée de la construction d'un monument pour marquer l'événement. Il sera appelé le monument de la démocratie.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
L'année qui s'achève a été marquée à travers le monde par des manifestations de Hong Kong au Chili et du Soudan à l'Iran. Dans une dizaine de pays, les citoyens sont descendus dans la rue pour exprimer leur mécontentement. Certains ont obtenu gain de cause et d'autres non. Le point dans ce reportage de Margaret Bisher, repris ici par Irénée Herman Ungbo.
En France, les manifestants ont enfilé leurs gilets jaunes, exigeant un meilleur salaire et l'arrêt de la hausse des prix. Au Soudan, le peuple a renversé le régime après 40 années de règne d'un dictateur qualifié de génocidaire. En Haïti, ils ont réclamé la démission du président et la poursuite de fonctionnaires corrompus. À Hong Kong, les manifestants ont commencé à tenir tête aux autorités chinoises au sujet d'une loi d'extradition. Ils ont ensuite élargi leurs revendications pour inclure plus de démocratie dans la gestion publique.
L'ancienne génération n'a pas réussi à faire face à la plus grande crise que l'humanité ait jamais connue.
Même les écoliers sont descendus dans la rue pour exiger des adultes un meilleur entretien de la planète, notamment dans des pays comme l'Irak, le Liban et l'Équateur. En Iran comme ailleurs, des citoyens ont tapé du poing sur la table, réclamant un changement dans la gestion des affaires publiques. Le secrétaire général de l'ONU a appelé à cet effet les gouvernements à écouter les préoccupations de leur peuple.
Il est clair qu'il existe un déficit croissant de confiance entre les personnes et les institutions politiques et des menaces grandissantes contre le contrat social. Le monde lutte également contre les effets de la mondialisation et des nouvelles technologies qui ont accru les inégalités au sein des sociétés.
Certains gouvernements ont essayé de répondre aux revendications, tandis que d'autres utilisent la force pour se maintenir au pouvoir. En Irak et en Iran, par exemple, des centaines de manifestants ont été tués par les forces de sécurité alors qu'ils manifestaient pacifiquement. Par contre, en France, au Chili, en Équateur, en Bolivie et à Hong Kong, d'autres ont vandalisé et pillé.
Ils ont le droit de manifester pacifiquement. Malheureusement, les gouvernements ont souvent eu recours à une force excessive, arrêtant des personnes arbitrairement. Parfois même, ils les tuent, les assassinent. C'est illégal. Les autorités responsables des décisions et des meurtres doivent répondre de leurs actes. Aussi, les manifestants ont l'obligation de se comporter de manière responsable.
Un élément que toutes les protestations ont en commun, c'est un changement d'attitude.
La principale chose que nous observons dans beaucoup de ces endroits est la rupture de la barrière de la peur. Les gens ont plus peur de sortir dans la rue et de critiquer ces politiciens, ce qui dans le passé était
tabou. Dans de nombreux cas, selon M. Dewashi, ce sont les politiciens qui craignent désormais le pouvoir du peuple. Une grande partie de ce pouvoir provient de l'organisation par le biais des médias sociaux, qui est à la fois un outil puissant et une vulnérabilité.
Les gouvernements ont réalisé que les coupures d'Internet sont un excellent moyen de fragiliser l'organisation des manifestants. Mais nous voyons bien qu'ils se réorganisent. Nous ne pouvons pas les empêcher.
À l'approche de 2020, rien n'indique que ces mouvements de protestation, alimentés principalement par les médias sociaux, vont ralentir.
En direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Pour la première fois, l'Organisation mondiale de la santé indique que le nombre de fumeurs dans le monde a diminué, soulignant ainsi que les mesures visant à réduire le taux de tabagisme portent leurs fruits. Les femmes fument de moins en moins et les hommes sont en passe de suivre la même tendance. Un résumé de ce rapport par Lisa Schlein à Genève, repris ici par Nathalie Barge.
Les responsables de l'Organisation mondiale de la santé observent un changement majeur dans la lutte contre le tabagisme qui tue chaque année plus de 8 millions de personnes. Les données de 143 pays montrent une baisse du tabagisme pour la première fois chez les hommes à la suite d'une augmentation régulière au cours des deux dernières décennies. Durant cette période, l'OMS signale que 60 millions des quelques 1,4 milliard de fumeurs dans le monde ont cessé de fumer. La plupart de ces réductions sont imputables aux femmes. Cependant, le directeur de la promotion de la santé de l'OMS, Roediger Kretsch, a déclaré que la consommation de tabac par les hommes au cours de la même période avait augmenté d'environ 40 millions.
Mais maintenant, nous constatons pour la première fois une baisse de la consommation. L'OMS prévoit qu'il y aura 2 millions d'hommes de moins qui fumeront en 2020 et 5 millions de moins en 2025. Moins d'hommes utilisant des produits du tabac signifie que moins de personnes subiront la douleur et la mort évitable qu'ils provoquent.
Monsieur Kretsch dit que la baisse de l'usage du tabac montre que les mesures de lutte anti-tabac fonctionnent. Il affirme que des mesures telles que la fiscalité, l'interdiction de la publicité et du marketing, ainsi que du tabagisme dans les lieux publics et l'emballage neutre des produits du tabac découragent les gens de fumer. Le rapport constate qu'environ 43 millions d'enfants âgés de 13 à 15 ans fument. Les garçons consomment deux fois plus de tabac que les filles. Il indique que l'Asie du Sud-Est a les taux de tabagisme les plus élevés, tandis que l'Afrique subsaharienne a les plus bas. Par ailleurs, l'OMS indique que la plupart des gains dans la réduction de l'usage du tabac ont été réalisés dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, tandis que le continent américain est la région la plus performante du monde, l'Europe a le rythme de déclin de la consommation de tabac le plus lent.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Darrell Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.